Onde.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Et merci pour l'invitation déjà. C'est très, très gentil. Donc c'est ma première conférence. Donc en regardant le thème de l'erreur, on va essayer de faire ça tous ensemble et de se planter lamentablement tous ensemble. Et donc avec cette conférence que j'ai décidé de faire, conférence à des guillemets qu'on fait avec les doigts. Donc il s'appelle Comment bien rater sa vie. Donc titre déjà qui m'a. Désolé, je me prends déjà le pied dedans. Donc voilà, donc moi c'est Shai Zeleski. Je fais de la bande dessinée notamment, de la musique aussi, mais surtout de la bande dessinée. Et donc voilà, je viens d'avoir 30 ans, ce qui arrive au meilleur, hein, c'est pas très grave. Mais c'était l'occasion, débile hein, finalement, c'est un peu une étape dans la vie, on a des chiffres ronds, hein, on aime bien. Et c'est le moment de se redemander finalement qu'est-ce qu'on a laissé, qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, une question commençait à m'obséder, c'est est-ce que j'ai bien raté ma vie comme il faut ? Et donc, cette question vraiment travailler. Nous travaillons vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on va repartir au début pour essayer de voir ça. Donc, ça, c'est moi quand j'étais très jeune et que j'avais déjà une tête de quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose. Et mes parents, pour mes parents, c'était très important de réussir. Ils n'avaient pas de modèle préconçu. Ils m'ont pas forcé à faire quoi que ce soit, mais ils viennent d'une famille qui sont arrivés en France et qui ont cette humilité de beaucoup de personnes immigrées finalement, de vraiment se dire « Ah bah c'est une chance d'être ici, et du coup il faut qu'on soit entre guillemets digne. » Donc mes parents sont vraiment, ont plein de qualités, ma mère a été très très militante, mon père il est vraiment aussi fort dans la menuiserie que l'électronique que dans le billard. Et donc, mais par contre quand on leur dit « Non, non, je ne sais pas vraiment », ils ont cette grosse humilité, mais en même temps il fallait réussir et je pense que derrière il y avait le côté d'avoir une vie meilleure que la leur, de la classe ouvrière forcément, et du coup ils espéraient, c'est normal pour des parents peut-être, un meilleur futur que ce qu'eux avaient pu avoir. Et tout ça donc finalement on arrive à ce moment-là, re-back jusqu'à aujourd'hui, où je me demande est-ce que j'ai bien raté ce qu'ils m'ont demandé. Et donc pour ce faire, j'ai pris des petits messages de qu'est-ce qu'est la réussite finalement, qu'est-ce qu'on attribue aujourd'hui à la réussite aujourd'hui. Des messages d'internet et on va pouvoir voir ça ensemble avec le premier message. Donc Jean-Jules Géraud nous dit: je pense qu'une des choses les plus importantes c'est avant tout de réussir ses études. Enfin, à ce qui paraît, moi j'ai repris l'entreprise de papa, donc bon, mais bon, ça reste important. Donc merci Jérôme de l'essayer apparemment. Effectivement, les études est une des choses, une des clés de la réussite, en tout cas, c'est ce qu'on. Tout le monde serait à peu près d'accord avec ce truc-là. Et donc, il fallait que je fasse des études que j'aimais bien. Donc moi, je voulais faire des études d'art, parce que j'étais bien tombé. Et quand j'ai commencé à postuler, donc déjà, là où j'ai grandi à Sarcelles, que certaines personnes connaissent, c'est une banlieue du 95, qui est vraiment connue pour des choses pas très, voilà, pas très bien, mais qui, voilà, et je ne savais même pas qu'est-ce qu'était une école d'art. Enfin, c'était même pas la connaissance même d'une école, je ne l'avais pas, quoi. Et quand j'ai commencé à savoir qu'on pouvait finalement pas faire un lycée classique et continuer à faire de l'art, j'ai postulé à plein d'écoles qui m'ont toutes refusé en me disant « Ouais, la banlieue c'est chaud, franchement c'est chaud », et ils prétextaient que c'était un trop long chemin, etc. Et donc du coup tout le monde m'a refusé, l'école lycéenne m'a refusé, et puis des gens se sont décommandés, je sais pas comment on dit, et j'ai pu intégrer l'école lycéenne, où vraiment tous les ans, la conseillère me disait « Mais du coup vous comptez bien déménager à Paris ?» pas du tout prévu finalement. Et du coup ma mère qui avait déjà cette intelligence de comprendre qu'en fait ce qui posait problème c'était plus ma géolocalisation que mes talents, et du coup elle disait oh oui bah là vraiment ouf, on est dans les cartons, et pendant 3 ans elle a dit ça, ce qui m'a permis de pas avoir de trucs relous. Et donc c'était une école assez compliquée parce que moi j'arrivais et pour moi l'art c'était faire ce qu'on voulait, c'était la liberté, et après il y a le réel, et le réel c'était une école d'art appliquée, c'est vraiment le petit mot qu'on oublie. Et c'est-à-dire que c'est de l'art appliqué au commerce, à la finance, à des choses vraiment géniales. Et donc je me suis retrouvé à un des premiers cours dont je me souviens. On arrive et le prof nous dit « Bon, tracez des petits carrés. » On trace des petits carrés, parce que là, c'était dans mes compétences. « Et faites juste des aplats de couleurs dedans. » Donc un aplat, c'était une couleur unie, sans rond, sans rien. Bon, on fait des aplats de couleurs, ok, c'est un peu chiant, mais c'est la base, normal, il faut apprendre par le début. Ensuite, il arrive à un cours avec plein de nourriture. Ah, on commence à parler. Et des paquets, donc des paquets de chips, etc. Et en fait, il fait, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Nous, très naïf, et puis on fait bah, aller manger. Et non, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est vraiment pas comme ça. Donc du coup, ce qu'on devait faire, c'était étudier les logotypes. Et vraiment, et je me retrouvais à vouloir faire plus de la bande dessinée, avec des profs qui disaient que la bande dessinée, c'était pas de l'art. Et en même temps, j'étais là à faire un truc qui était anti-artistique, à faire des planches, des nuits blanches parfois, à juste analyser un putain de logo Whiskas ou un putain de truc frident. Et de dire « frident, c'est parce que les dents sont frites » et des trucs comme ça. Et on sait que c'est n'importe quoi, mais on le dit, le prof fait « oui, oui, très bien, et la typo est blanche comme les dents qui elles-mêmes sont blanches. » Bref, vraiment, ça se prend très au sérieux. Et après tout ça, on peut se dire « bon, au moins, ok, c'était relou, mais tu es arrivé à un niveau de subtilité dans l'art, de technique. Vraiment, tu as progressé, tu es maintenant un maître de l'art quand tu sors de cette école. » Voici une des dernières œuvres que j'ai produites en sortant de cette école. Donc voilà, vraiment, j'avais une technique qui plaisait bien au prof, comme vous imaginez. Donc finalement, ils n'ont pas voulu me tamponner mon dossier pour que je passe mon diplôme. Donc j'ai volé le tampon pour pouvoir passer mon diplôme, et puis après, corrigé par d'autres profs, pas de l'école. Et donc j'ai pu comme ça, voilà. Donc, ça, première chose pour bien rater sa vie, vraiment, mettez-vous tout le monde à dos, c'est vraiment très bien. Et donc, ensuite, j'ai décidé de partir en musique. J'en avais eu marre de l'art, je trouvais ça trop carré. Je me suis dit, la musique, l'improvisation, on écoute toutes de la musique. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Et j'arrive dans une fac où tout le monde est là, et tout le monde doit dire que l'instrument il joue, c'est beaucoup de pianistes et de guitaristes jazz. Et moi, je faisais de la guitare aussi, mais je me disais, mais c'est horrible, tout le monde a exactement le même schéma. Et donc, je m'étais dit que j'allais m'inscrire en ukulélé. Et il n'y avait aucune espèce de cursus pour ça. Donc ça n'a pas marché, j'ai pas fini mes études. Et j'étais vraiment méprisé de fond en comble. Donc voilà, on part déjà sur des bonnes bases, on est vraiment sur des très très bonnes bases. Et donc on va pouvoir finalement, maintenant que j'ai bien foiré mes études, voir le reste, est-ce que je vais tout aussi bien foirer avec la prochaine question de Manu Startup. C'est monsieur le président SNP. La réussite ne s'évalue que sur un seul critère, le travail charbonné dur, bosser d'arrache-pied. Je t'expliquerai ça dès que je rentre de vacances. Hashtag travail, hashtag c'est mon projet, hashtag je veux dire notre projet, hashtag au boulot. Merci Manu pour ton commentaire. On arrive donc au métier. Et effectivement, la première chose que j'ai dû faire en tant qu'artiste, c'était de trouver un autre métier qu'artiste pour pouvoir payer mes factures. Et donc, c'est un cas assez particulier. Il y a plein de métiers où vous sortez de vos études et vous savez quasiment qu'à 95%, si vous n'avez pas des parents qui peuvent se permettre de vous donner de l'argent ou de vous laisser une, deux, trois années de vous poser, que vous allez faire un truc que vous n'allez pas aimer. Juste, il faut que ça prenne à la fois assez de temps pour l'argent pour payer vos études et en même temps, il ne faut pas que ça prenne tout votre temps pour pas que quand vous rentrez le soir, vous n'ayez plus l'énergie de créer. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Et donc, le premier métier que j'ai fait, c'était de vendre des pains, voilà, des pains comme ça, en forme de... Finalement, mon premier métier était de distribuer des bitulantes en forme de pain. Donc voilà, c'était mon premier métier. Je faisais ça et je me disais, voilà, ma vie est foucrée. Ça part sur les bons chemins. On est posé, quoi. Là, je suis artiste, quoi. Tout ce que côté débit à longueur de journée. On est vraiment sur ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc voilà, donc c'était ça. Et évidemment, ensuite j'ai eu. Ça n'a pas duré longtemps, bizarrement. Et c'était très. C'était ma première expérience de. Ok, le travail c'est ça, il faut pas déroger. Il y a des règles très précises que j'avais pas vues de. Non, tu respectes le truc d'un tel qui est un peu plus vieux, tu respectes tel machin et tout. Bref, il y avait plein de règles que j'ai pas vu ni voir. Quand j'ai quitté ce travail-là, je suis encore un peu descendu d'une échelle où j'étais manutentionnaire pour une grande distribution. Et donc il faut se lever. À 2h du matin, pour être là-bas à 3h du matin, donc à pied, donc je le faisais à pied, je marchais de mon chez moi jusqu'à ce que je passe. Et mettre du. Quand vous arrivez le matin, tout est bien rangé, il y a des gens qui font ça, ça s'appelle du facing. Magnifique! Dès qu'on commence à mettre des mots anglais, c'est pas cool. En général, ça cache un truc. Et donc je faisais ça de 3h à 6h du matin, et c'était assez évidemment relou. Et je me disais encore une fois, c'est vraiment la permanence, je me suis dit, en fait, c'est fini. C'est fini, j'aurai plus jamais l'énergie de créer. Parce que c'est vraiment impossible finalement. Et donc j'ai arrêté, je me suis dit sinon je ne ferai plus jamais d'art. Et j'ai commencé à essayer de vivre de ma musique. Et ça n'a pas marché. Parce que ce sont des. Vous arrivez, vous sortez, vous dites, bon, c'est bon, j'en ai marre, j'ai un peu économisé, j'ai vendu des bites, bon, j'ai tout pas dû aider. Bon, je pense que ça va, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et en fait, ça ne marche pas, vous faites des concerts, mais vous n'êtes pas payé. Pire que ça, des fois, vous devez vous payer la salle. Parce que, finalement, c'est tellement mieux. Vous avez des artistes en demande, donc pourquoi pas les faire payer. Et je ne voulais pas passer le chapeau, parce qu'à l'époque, j'avais un peu du mal à me dire que les gens qui venaient me voir étaient très souvent étudiants et étudiantes, avec pas d'argent. Ce n'était pas à eux de combler ce que la société ne me donnait pas, finalement. Et donc, ça ne marchait pas. Et puis, j'avais ce courage. Oui, ouais. Un verre un petit peu excessif. Et donc ça ne passait pas chez les éditeurs. J'avais des thématiques que je voulais aborder dans mes bandes dessinées ou dans mes musiques qui ne me plaisaient pas. J'avais un accent horrible. Je pourrais continuer la liste très longtemps. Et ce qui est très marrant, c'est que ça me peinait bien sûr de ne pas réussir. Mais il y a une part de moi qui s'en foutait où je me disais, franchement, je kiffe bien ce que je fais. Quoi. C'est stylé, tu vois. Je me disais, ok, ça marche pas, mais franchement, c'est pas mal, tu vois. Et ce truc-là me suffisait, quoi. Je m'enfonçais dans les méandres des dettes et des trucs comme ça, mais ça me suffisait de juste faire des trucs que j'aimais, quoi. Et donc, je ne réussissais pas. Je n'ai pas réussi, c'était trop dur de vivre de la musique. Tout ça a capoté lamentablement, donc pour l'instant, je suis plutôt bien parti. Voyons maintenant le prochain message. Hippie Cahier nous dit... Non, mais il y a plus important que l'amitié. Il n'y a pas plus important que l'amitié, mes frères et sœurs, moi je vous le dis. LOL. Alors, déjà, je pense que y a plus d'importance, c'est de ne pas dire LOL, mais ça me regarde. Et ce qu'il essaie de nous dire, effectivement, je pense que toutes ces considérations de métier, d'études, je trouvais ça assez terre à terre. Et pour moi, le plus important, c'était connexion avec les gens. Et passer le lycée, c'est très dur. Parce que moi, j'avais fait un lycée d'art, donc on n'écoutait pas en cours. On faisait des petites BD sous nos cours. Et pendant la pause dîner, on allait juste acheter des madeleines et de la limonade, qui est de la limonade à 50 centimes. Et on se posait dans le petit truc d'herbe qu'il y avait devant, et on refaisait des BD. Et on parlait que de musique et de punk et de trucs comme ça. Et c'était cool. Et puis vous sortez, il y a des vieillissons tous, des gens s'en vont faire des études plus loin, ou juste se marier, ou des enfants, c'est des choses qui arrivent, on n'y peut rien. Et donc finalement, très vite, quasiment vers 20 ans, parce que j'ai l'âge canonique de 30, je me rappelle, vers 20 ans, je me suis retrouvé très 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 isolé. Quoi. C'est vraiment, j'arrivais plus à rencontrer des gens et à sociabiliser. Il y avait un truc où c'était cool quand on est à deux, parce qu'on fait « Hey, salut, c'est cool, t'écoutes les clashs, ouais, tu vas faire un Super Mario ?» Et bien, viens à la maison. Et quand on est deux, c'est « Tu veux, là, en ce moment, je suis un petit peu sur... je suis sur des points que j'aimais pas. » J'aimais pas, beaucoup de gens commençaient à me parler que de thunes et trucs comme ça, et j'arrivais pas du tout. Évidemment, c'est important de parler d'argent, etc. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est un truc, moi, j'arrivais à cette époque-là, j'arrivais vraiment pas du tout. Et ça bloquait surtout que ce soit le premier truc. Avant même, j'avais vraiment des gens qui me disaient, encore aujourd'hui, et désolé si vous me regardez, c'est pas grave, je suis désolé, qui me disaient, ouais, tu vois, moi, par exemple, je fais des dessins, je regarde un petit peu sur Twitter lequel a le plus de likes, puis je les tire en originaux parce que c'est qu'ils se vendront plus, mais pas trop, comme ça, je peux augmenter les prix. Tu vois, ce genre de discussion, je les ai encore aujourd'hui, vraiment dans les festivals de BD. Et là, je flingue un petit peu le milieu, ce qui aide bien à rater sa vie, finalement. Mais c'est vraiment, j'étais vraiment très déçu de moi, ce que je voyais de ce milieu-là, c'est-à-dire mes potes, on rigolait, on faisait des BD, c'était cool. Et non, en fait, la majeure partie du milieu est trustée par des gens qui n'aiment pas la BD et qui veulent de l'argent. Alors qu'il n'y a pas d'argent, clairement, dans la BD. Donc c'était chelou. Et donc voilà, donc les amitiés, je n'arrivais pas à en trouver. Et je me disais, mais où est-ce qu'on en trouve ? Et je me demandais, mais où est-ce qu'on trouve des amis ? C'est hyper. Ça a l'air triste et nul comme question. Mais c'était vraiment ça, genre, où est-ce qu'on trouve des amis ? Et quand on pose ce genre de questions, il y a toujours quelqu'un qui se croit drôle et dit, attends ton cul ! Et bien, c'était malheureusement souvent le cas. Et du coup, j'arrive à part du coup, pour avoir des relations sexuelles, ce qui était bizarrement assez aisé chez moi. Le reste, je galérais. Ce qui nous mène finalement, puisqu'on parle de cul, peut-être à la prochaine question, qui est de Chaïs Zaleski, sans doute une formidable personne, qui nous dit « N'oublie pas de parler de l'importance du cul aussi, enfin de l'amour, tu te démerdes ou quoi. Une vie affective bien remplie est aussi un signe d'une certaine manière de réussir sa vie, signé ton toi du passé. » Merci, magnifique personne. Magnifique personne. Et effectivement, quand on n'a pas d'amitié, il y a toujours le format couple, où on va se dire quelqu'un va être à côté de nous, nous épauler, nous suivre, vivre nos galères. Et donc j'ai eu très jeune mon premier copain. Et donc ça se passait comme ça peut se passer. c'était dans une première relation, c'était rigolo, on s'amusait bien. Et il avait cette spécificité donc d'aimer beaucoup les garçons et d'être très homophobe en même temps. Donc ça, c'est pas ouf collé. Et du coup, on n'a pas pu perdurer dans cette voie-là. Parce que c'était forcément compliqué. Je devais vraiment faire. Je me suis toujours identifié des deux genres, parce que je m'en fous. Et du coup, lui, évidemment, il tenait que la partie féminine parce qu'il ne voulait absolument pas être gay. Et de là, ça a évidemment créé pas mal de traumas et des années de psychanalyse, mais surtout, ça m'a aussi permis finalement de. Je n'étais pas vraiment une fille, je n'étais pas vraiment un garçon, et ça m'a permis de créer ce petit mot-là, qui est comme ça que je me définis aujourd'hui, garçon, et qui, encore maintenant, c'est quelque chose quand je fais des BD, quand je fais des œuvres, qui est resté. Donc finalement, indirectement, merci à lui. Enfin, il s'est suicidé entre temps, mais merci de là où il est. Et voilà, les gagnants ne sont pas toujours ceux qu'on pense être, et donc voilà. Mais ça m'a au moins permis ça. Donc là on est sur la partie joyeuse, un petit peu quand même, parce que je me suis dit c'était un peu trop rigolard, il fallait quand même un peu plus d'humour. Et donc bref, après ça, je me suis dit, ok, ça c'est chelou, ça marche pas, faisons ce que la société attend de moi. Moi j'étais eu égard au fait que je suis un peu ambidextre du cul et que je peux taper dans tous les genres, je me suis dit, bah, on va essayer de donner... d'aller vers la gente féminine. Et j'ai tombé sur, effectivement, une personne qui, en fait, est très bien sur ce rapport, mais qui voulait vraiment un mec. Pas un mec, bon, un mec avec les testicules à gauche, un mec. Et tel que vous me voyez maintenant, j'éclate comme ça, l'air très viril, mais pas du tout. Et du coup, ça ne marchait pas. C'était vraiment, je me souviens avoir cette discussion de « Tu vois, moi, ce qui me plairait, c'est genre un mec qui arrive en costard déjà. » Par exemple, il faut savoir que la seule chose qui peut me faire faire coucher avec une personne, c'est si elle porte une cravate. Donc déjà, ça m'a pas mal. Donc c'est ouais, un mec arrive avec une cravate, sa petite barbe, et qui jette son suitcase et dit « Qu'est-ce qu'on a à manger, chérie ?» Enfin bref. Et je me disais que c'était vraiment pas ce que j'étais. Et que ça devait plutôt ressembler un petit peu à un truc comme ça. Et que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai peu de points de comparaison avec moi. Je vais mettre un petit peu à côté comme ça. La ressemblance n'est pas frappante, donc la relation n'a pas marché, spoiler, on a rompu 6 fois. Donc 6 fois, parce que je revenais à chaque fois, je me disais non mais c'est le schéma, c'est la société, il faut, c'est la vie, il faut faire ça, et du coup ça n'a pas non plus marché. Après ce petit tour, comme ça, exhaustif, on peut voir que ça finalement, je l'écrivais tout ça sur mon ordinateur, et je me disais, c'est bon, bah, j'ai bien tout raté, c'est cool, j'ai bien tout raté, j'ai raté ma vie comme il faut, j'ai raté tous les paramètres que j'ai eu sur internet. Et donc, voilà, fin de l'histoire. Et en fait, évidemment que non. Car je pense qu'il y a deux choses qui me gênent là-dedans. Il y a le fond et il y a la forme. On va commencer par la forme. On aime que la réussite soit romantique, on aime des récits. Moi, je suis sorti des favelas à 5 ans, tu vois, j'ai monté ma start-up, ouais. Ouais, aujourd'hui je fais 10 cas par jour, mais écoute, c'est la vie. On aime ce genre de truc. Personne ne vous dirait, alors franchement, moi j'ai eu de la chance. Personne ne va vous parler de son contexte, va vous dire qu'il a eu de la chance parce que ses parents, pendant qu'il faisait des études, pouvaient lui payer un appartement. Parce que peut-être juste ses parents pouvaient même, genre, lui garantir une place quelque part. J'ai un pote qui est comme ça, il me dit, ouais, mais je l'ai pas pris, je fais, mais tu savais que tu pouvais. Tu te levais pas le matin en te disant, bon ben là, si je perds mon appart, c'est la rue, les gars. Parce que tu sais que tes parents n'ont pas la place à te loger. Et finalement, c'est le tout truc, c'est que ces gens-là aiment, on aime cette, mais même nous-mêmes, quand on aime les récits, on aime la roue, on aime cette forme très, très romanesque de la réussite. Et le deuxième problème, c'est le fond. Qu'est-ce que la réussite, finalement? Est-ce qu'au lieu de parler, je parlais tout à l'heure de quoi? Je parlais d'études. Est-ce qu'on ne peut pas baser l'apport de cette chose-là plutôt en termes d'apport personnel ou intellectuel? J'ai beaucoup lu, j'ai vu des tas de gens à travers le monde, j'ai parlé à beaucoup de gens via Internet. Et grâce au forum de discussion à l'époque où ça existait, avant, voilà, ça c'est le moment où je suis un petit peu vieux. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être fier du bagage culturel que je porte, en dehors du fait que j'ai foiré mes études. On parlait de quoi? On parlait de métier. Bon, aujourd'hui, je fais quoi? Je fais des BD, je fais un peu d'illustration, je fais de la musique. C'est galère, c'est chiant, c'est méga chiant, mais je le fais. Je le fais, c'est quoi? C'est juste que je gagne pas d'argent, du coup un artiste, ça serait une sorte de statuette déposée à l'INPI ou un truc. Non! Aujourd'hui, je suis artiste parce que j'ai décidé que j'étais artiste. Il y a quoi d'autre? Des amis? Bon, Karen, je n'ai pas entendu le truc, mais tous les gens avec qui j'ai pu batifoler joyeusement aujourd'hui sont mes amis. C'est souvent des gens qui sont mariés, qui ont d'autres choses. Parfois des garçons qui n'avouent même pas qu'ils ont fait ça à leur copine. Mais on se parle. C'est cool, ils me supportent. Parfois en secret, parfois publiquement. Mais c'est cool. Pourquoi est-ce que ça devrait être faire des fêtes à 200 personnes avec des cocktails aromatisés au gingembre? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, puis les relations amoureuses, encore une fois, on pourrait faire le même principe de qu'est-ce qu'une relation amoureuse? Est-ce qu'il faut vraiment être marié dans un couple hétérosexuel avec un chien et deux enfants et une petite maison sur la côte? Quand on regarde, on voit le petit phare au loin. Je pense pas. Le tout en mangeant à des petits BN et en faisant une pub pour Nutella. Non, moi j'ai jamais rêvé de maman Nutella, j'ai jamais rêvé de richesse, j'ai jamais rêvé de choses que j'ai pas, puisque je les ai pas rêvées, basiquement. Et ça m'emmène à ma conclusion, ça allait très vite, parce que je parle très vite, désolé. C'est qu'on peut pas rater sa vie. C'est quoi rater? Ta vie, tu vas la voir, elle mène d'un point A à un point B, ça commence, ça finit, et au milieu, elle existera quoi qu'il arrive. Ne pas rater sa vie, c'est quoi? C'est genre ne pas vivre. Et du coup, si on ne vit pas, on n'a pas d'angoisse de rater sa vie, puisqu'on ne vit pas. Donc à partir du moment où on a conscience d'avoir peur de rater sa vie, ben, on l'a réussi déjà, puisqu'on vit. Et oui, c'est QFD. On ne peut pas rater sa vie, tout simplement. Donc je n'ai pas raté ma vie, personne ici ne l'a raté, et on les a tous réussi. Merci. Il n'y a pas de bonheur, s'il n'y a pas de malheur, etc. C'est pas un truc aérien sur une gliante, c'est vraiment un truc formel. C'est que si on n'échoue pas, si on n'a pas des difficultés, si on n'a pas des périodes très creuses peut-être, et si on ne vit pas des choses peut-être un peu traumatisantes, et quand tout va bien, on ne sait pas quoi. Moi j'ai des gens qui sont riches, mariés, machin, et ils sont chiés, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Parce qu'ils ont. On apprend par le vide, quoi. On apprend par le vide. Donc, basiquement, cette personne-là, je me demanderais que ces périodes-là, elles n'étaient pas heureuses, mais elles n'étaient pas ratées. C'est deux choses différentes. Le malheur n'est pas une rature, quoi, pour moi.
Et pas forcément des gens qui s'estiment malheureux, mais qui s'estiment plus précis, qui sont passés à côté de quelque chose,
qui ont fait
une activité.
Oui, par exemple, quand on met un truc alimentaire, mais ça, c'est même si c'est des gens qui ont un truc de confort, par exemple, et qui n'ont pas vu les années passées, finalement, surtout à 30 ans, ils disaient, parce que maintenant, je suis coloré les cheveux, je fais l'escalade, ou je sais pas quoi. Ce que je conseille à tout le monde de faire, bah, ce temps-là n'est pas raté puisqu'il a permis d'arriver à là, par définition.
Et on peut dire aussi, j'ai peut-être pas une vision très globale du monde de la bande dessinée, qui est un monde spécifique, mais j'ai l'impression que tu es quand même suivi par une communauté, que tu as une espèce d'aura aussi, c'est-à-dire que tu... pas forcément à toi de valider, hein. Toi que c'est difficile.
Là, j'ai pas peur, oui. Oui, bien sûr. Oh, j'ai volé ma bosse.
En tout cas, moi, je pense que t'as là, quoi. Et tu parles aussi beaucoup dans tes BD de ça, quoi. De je suis pas forcément au top tout le temps, parfois je me sens nulle, parfois ce que je fais, j'ai l'impression que c'est vraiment naze, quoi. Enfin, c'est un truc dont tu parles beaucoup aussi dans ton travail, quoi.
Pour répondre à la première partie de ta question, d'une part, pour la communauté, etc., encore une fois, effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, les choses sont très fluides et il y a vraiment des jours où on se lève, on se dit voilà, je tire des petits exemplaires, j'ai l'air pour payer mon loyer, et à ce moment très précis, on a l'impression effectivement de tout rater. Et on oublie parfois que des gens vous supportent, etc. Je pense pas, je pense avoir beaucoup de gens qui me haïssent profondément aussi. Mais j'en ai, quoi. Vraiment, un jour, quelqu'un m'envoie un message en me disant il n'y a aucun autre artiste sur Terre que je hais plus que toi.
Oh.
Voilà. Et on est fiers quand ça arrive. On se dit j'ai dû faire le bon choix. Et non, mais c'est marrant parce que j'ai oublié de raconter une anecdote que je m'étais dit que je raconterais. Puis j'ai oublié parce que je parle beaucoup trop. Mais quand j'étais au collège, on avait une prof un peu frustrée qui disait vous savez, moi j'ai fait les Beaux-Arts, je suis pas né pour enseigner à des petits gamins de banlieue, enfin des gens comme ça. Elle fait moi je suis censé enseigner aux grands machins. Bref. Et à moi, elle nous avait fait un poème. Elle nous avait fait faire illustrer un poème sur le bleu. Hyper chiant, un auteur cela du 14e, bref. Et donc le mec parlait du bleu, des yeux de sa fiancée, enfin qui était partie machin, etc. Et tout le monde donc fait des trucs, des espèces d'œuvres un peu, une sorte de camaïeu abstrait bleu. Et j'avais décidé de faire un monde sans bleu, parce que je me dis, je vais exprimer que le mec est tellement triste d'avoir perdu sa meuf que pour lui, tout le bleu de ses yeux est parti avec, quoi. Donc je fais ça, j'étais un petit peu perché. Et elle me dit, mais c'est une honte, t'as pas compris, faut faire du bleu. Et je me dis, ok, on a donc à faire avec une adulte. Et du coup, il y a ce truc-là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai rendu ce truc-là. Il m'a dit, tu rentres à zéro, je l'ai rendu. Et je pense que quand on n'est pas validé par tous les connards et les connasses de la planète, on est sur la bonne voie finalement. C'est juste ça. Donc ce qu'on estime être un échec, ça dépend qui est-ce qu'on estime être un échec.
Ouais, tu parles beaucoup de ne pas faire de compromis, ouais, dans tes BD, dans tes planches que tu mets sur ton blog. Est-ce que tu penses que du coup, de ne jamais faire de compromis, ça amène forcément à la précarité?
Oui. Oui, clairement, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir en tant qu'artiste. Plus vous voulez faire votre chemin, plus vous voulez prendre votre temps, plus vous voulez avoir votre propre dynamique, plus vous voulez avoir votre message que vous vous estimez personnel, plus vous êtes, vous remplissez pas les petites cases, parce que vous êtes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être effectivement ne pas être un homme hétéro, ça peut être être de couleur, ça peut être avoir des origines qui sont visibles sur votre tête, ça peut juste avoir un parler différent, avoir une neuroatypie, ça peut être n'importe quoi. Plus vous remplissez comme ça des petites cases, plus c'est chaud. Et surtout, plus vous voulez montrer que c'est pas le bug. Il y a un moment où je me souviens qu'un auteur m'avait dit, mais tu te rends compte, tu ne manges pas de viande, tu es métis, tu viens de banlieue, tu es bi et tu te définis comme masculin et féminin, comment veux-tu marcher? Et oui, c'est plus long. C'est plus long à partir du moment où le nombre de fois où j'ai eu des éditeurs qui m'ont refusé parce que je voulais. Ça m'est arrivé, je suis très précaire. Et après, je ne dis pas qu'il faut être aussi extrême que moi, mais ça m'est vraiment arrivé de dire non. La dernière date, c'était un contrat de 10 000 euros que j'ai refusé. Parce que ce n'était pas comme je voulais. Et je ne dis pas qu'il faut faire ça. Vraiment, vous avez l'occasion de vivre, faites-le, de ne pas mourir. Mais il y a un moment où chacun place son truc. Moi, je sais que la création est le truc le plus important. Donc en fait, si je ne faisais pas ça, le dommage serait plus grand que la précarité pour moi. Parce que finalement, on bidouille, et je ne suis même pas la personne la plus à plaindre, je pense malheureusement, mais c'est ça, je bidouille et j'arrive à m'en sortir. Mais bien sûr que je me coupe d'un monde de la bande dessinée, même de l'art en général, parce que je suis un petit peu vénère sur les bords, parce que j'aime parler de sujets... Je me souviens que la première fois que j'ai... La première idée que j'avais pour proposer à un éditeur, il y avait, ça parlait concrètement de relations, de textes, etc., comme ça, un sujet que j'aime bien. Bon, ça, il était plutôt d'accord. Mais il y a, du coup, forcément, ça passait sur partout des aspects, donc l'aspect un peu fantasmé, l'aspect un peu déménagé, un peu adulte. Et il y avait évidemment un peu l'aspect un peu rentrer dans une dépression. Et il m'a dit non, ça, par contre, on n'en est pas, c'est pas possible. Qui va acheter un truc sur la dépression? Et du coup, je ne l'ai pas fait chez lui, je l'ai auto-édité. En fait, mais parce que j'ai eu cette chance.
Et là, tu parles de quelque chose d'assez important qu'on a pas vraiment parlé avant, c'est que parfois on est refusé, mais souvent aussi c'est dur de devoir refuser ce qu'on nous propose, et qu'on, enfin nous, on n'est pas dans le même milieu, mais on doit refuser souvent des propositions qui sont complètement indécentes. On nous demande de travailler soit pour moins cher, soit pour zéro, ou comme tu dis parfois, presque on devrait payer pour travailler. Toi, c'est quoi les choses comme ça que tu t'es... Enfin, disons, il faut parfois se conditionner pour dire ça, je refuse que ça m'arrive à nouveau, quoi, ou d'accepter à nouveau ce genre de proposition.
Je pense que c'est un discours qui est très difficile à entendre, mais les artistes, créateurs et créatrices de tous bords, ont une sorte de part de responsabilité là-dedans. Si demain vous acceptez de bosser pour zéro pour Total, il ne faudra pas s'étonner que ça devienne la norme. Et... il n'existe pas de livre, il n'existe pas de festival sans les gens qui créent. Pour répondre à ta question, je laisse jamais rien. Pas un centimètre. Soit on me commande un dessin et je vois si ça me plaît, je dis bon, ok, je te le fais. Et la personne paye, c'est cool. À partir du moment où je crée une bande dessinée ou je crée une œuvre qui m'est personnelle, c'est ça. Et il n'y a pas un changement. On peut discuter, genre, si évidemment, si tu me dis attends, la blague est comme ça, ce mot-là serait plus marrant et tout. Évidemment, pas des bêtes. Mais sur le principe, sur vraiment le fond, l'important, Je pense qu'il ne faut jamais tergiverser parce qu'il faut oublier que ces gens-là viennent vous voir parce qu'ils savent que vous êtes bon et bonne en fait. Donc pourquoi est-ce qu'ils seraient là? Est-ce que moi, genre, je vais derrière le boulanger, je fais ah, pas comme ça le loupant? Bah non, il n'y a aucun autre métier, on se permet comme ça de dire. Des fois, je regarde des Twitch, donc c'est des sortes de streaming de dessinateurs. Enfin, vraiment, c'est pour le jeu vidéo, mais je regarde beaucoup de dessinateurs, d'illustratrices, c'est pour ça. Et il y a toujours quelqu'un qui fait ah ouais, le grand violet, par exemple, moi, je n'aurais pas fait ça. Mais tais-toi en fait, parce que c'est. Il n'y a aucune espèce de critère objectif en art. Et quand on crée des choses, c'est bien sûr, c'est hyper dur, c'est un truc très dur à dire non. Je pense que la fois où ça m'est apparu, clairement, c'est que. Donc j'ai ce petit truc d'ambiguïté de genre qui est critiqué par plein de gens, de genre ah ok, bon, t'es des garçons, tu joues beaucoup les filles, mais en même temps, je ne pense pas, enfin, je ne décris pas comme personne transgenre. Et beaucoup de gens se sont refusés de ça, et puis un jour, vraiment, des gens que je ne citerai pas, vraiment, on dit, bah ok, ouais, ça peut être cool, concrètement, bah si tu suis, t'as le job, quoi. Et à ce moment-là, t'as ce truc-là, t'as genre un gros truc dans l'art, et t'en quittes vraiment ton cul quand c'est pourtant bien plus sympa de le faire gratuitement. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est... À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, parce que. C'est même le pire, c'est qu'en plus, la personne m'aurait juste dit, bien en couche, j'aurais dit oui, je pense, parce qu'elle était cool, mais juste le fait de le proposer comme ça, c'est un truc d'intégrité, pas seulement d'intégrité, mais je pense qu'il faut être vraiment, soyez féroce, quoi. Soyez féroce, soyez genre hyper vénère sur votre art, quoi. Si quelqu'un vous dit c'est de la merde, vous dites non, c'est pas de la merde. Pourquoi, genre, moi, quand j'ai vu, en vrai, quand j'ai vu les œuvres que faisaient mes profs là, voilà, et relativiser aussi. Et non, en plus, pourquoi est-ce que demain, Jean-Michel Robeton, qui fait trois ronds en sérigraphie sur une toile qui est vend à 200 euros, pourquoi il va me donner des conseils? Il ne veut pas arriver au même but que moi, et je critique même pas cette personne-là. C'est juste que ce n'est pas le but que moi je veux. Et pour je n'écoute pas. On va se dire, je ne suis pas test, voilà. Disons-le clairement, j'écoute aucune critique, sauf si vraiment la personne a exactement le même genre de but, a un chemin que je veux vraiment suivre, où je me dis, ah, ok, c'est cool, c'est vraiment, j'ai une filiation avec cette personne-là. Mais sinon, faites ce que vous voulez. De toute façon, en fait, le talent n'a rien à voir avec l'édition, avec rien. C'est juste la chance. Donc, si vous faites un truc que vous n'aimez pas, non seulement vous pouvez aussi ne pas être édité, et c'est parce que, on dit souvent l'expression un peu vulgaire, genre, attention, que tout, il y a aussi des gens qui vendent leur âme et qui en plus échouent et n'arrivent pas, entre guillemets, à arriver au point où ils veulent arriver. Je pense que le mieux, c'est toujours, dans le doute, faisons ce qu'on aime, et tout ira bien dans le meilleur des
cas. Félicitations à arriver à dire non et à refuser des trucs. Moi, j'aimerais justement faire un petit témoignage, parce que c'est vrai que je suis auteur de BD, et c'est pas toujours évident de dire non à l'éditeur, et parfois, en fait, même. Dans le milieu de la bande dessinée, je suis convaincu de ça, je sais que vous m'avez dit. Dans le milieu de la bande dessinée, des fois, en fait, on est d'accord avec l'éditeur, et tout ça, et tout. Il y a d'autres gens, après l'éditeur, quand on a signé nos contrats, ça, moi j'ai un peu du mal avec eux, c'est les commerciaux. Et en fait, c'est eux qui vendent ton bouquin, et moi ça nous arrivait avec un pote sur notre album. On avait fait une couverture dont on était fiers, on était contents, sauf que les commerciaux, eux, ne l'aimaient pas du tout. Et on s'est énormément bavé avec eux parce qu'ils voulaient faire nous changer la couverture, nous on ne voulait pas. Bon, ils ont à moitié gagné. Le problème, c'est que c'est des personnes qui, même si on a envie d'en. Nous, on a le contrat, la BD, elle est finie, elle est signée. On est obligé de. Contractuellement, on est obligé d'ouvrir les pages. Et c'est des gens qui, malheureusement, on peut pas vraiment. On essaye de lutter contre eux et de leur dire non, mais non, là, tu dis de la merde. Mais on ne peut pas vraiment leur dire parce que ces mecs-là, en fait, ils peuvent carrément tuer ton bouquin avant qu'il soit. Parce que. Enfin, c'est des gens qui. C'est s'ils ne sont pas d'accord avec toi, comme c'est eux qui vendent ton livre au libraire, et s'ils sont. Enfin, s'ils prennent envie, ils peuvent carrément ne pas parler du tout de ton livre au libraire. Enfin, c'est.
Bien sûr, c'est
pas dans bien merde, je
Mais c'est bien sûr que c'est très compliqué. Il y a une part de où est-ce qu'on met, à quel point on est prêt à défendre un détail. Par exemple, évidemment, dans une BD, si on dit c'est parfait, par contre, c'est vrai, les chaussures rouges, tu les mets bleus, est-ce que ça vaut bien la peine de jeter le bouquin à la poubelle ? Il y a des choses comme ça dépend. Sur une couve, moi j'ai déjà eu des trucs comme ça, et j'ai déjà eu des trucs sur des titres, et j'ai déjà eu les deux cas. J'ai déjà eu une BD, j'ai dit c'est peut-être trop rien, non, si je veux, non. Et puis je fais bon, bah, je la fais pas, attends, on peut trouver un truc, on trouve un troisième titre, donc pas A, pas B, mais un troisième titre C. Et encore aujourd'hui, je me dis, c'était les gens viennent, c'est vraiment, c'est instinctivement, les gens viennent me disent « Moi, je l'avais appelé titre A hein ». Après avoir eu envie de me prendre avec les tripes de l'éditeur, il y a aussi ce truc-là de… En fait, très souvent, quand tu insistes et que tu es un peu vénère, les gens font quand même un truc. Quoi. J'ai eu ce truc-là, moi, j'étais court, c'est moi, je suis sur un BD, c'est un truc qui n'est pas petit non plus, tu vois. Et il y a vraiment, genre de la BD, donc une BD qui sort un peu dans une grosse maison, ça s'appelle quand même… Volkebo, qui est le titre de la sorcière. Déjà, ça, ils ne voulaient pas, ils ont dit, on ne comprend pas ce que c'est. Je vais mettre ce type de personnage. Il fait non, machin et tout. Déjà, j'ai réussi à le faire. Et c'était Volkebo, une sorcière, trois amoureuses. C'est une sorcière qui a 666 ex. Et du coup, ils m'ont fait machin et tout. Et je trouvais ça trop fan et tout. Et justement, en parlant avec et le directeur de collection et des gens du marketing, la BD qui va sortir s'appelle quand même Volkebo, la sorcière du cul. En fait, tu peux. En fait, le problème, c'est que c'est ça, c'est que pour moi, un des trucs qui me rend le plus triste, c'est que moi, j'ai grandi en banlieue, tu vois, avec tous mes camarades de classe faisaient 3 mètres pour me taper. Ma seule manière de m'en sortir, c'était le verbe. Et quand tu comprends que tu peux quasiment tout avoir par le verbe, mais c'est chaud parce qu'en fait, c'est du bluff tout le temps. Tout le temps, c'est du bluff d'être là, de faire non, je le fais pas, tu vas faire quoi. Et tu te dis, s'il me dit non, je l'arrive. Mais des fois, ça vaut le coup de le tenter. Après, je peux comprendre que dans certains cas, évidemment, c'est dur, personne n'a envie d'être à l'heure, etc. Mais ma vie est un bluff perpétuel. C'est juste ça, c'est genre, à chaque fois, je joue mon verbe et je joue de. Attends, déjà, si j'arrive à dire, genre, je me rappelle, pardon, et après, désolé, je passe la parole, très malin. Pendant que j'avais un contrat d'illustration. Donc, c'est une boîte de com qui m'engage. Je sais plus combien de X dessins, payé, on va dire, 500 euros. Et arrive à la fin, ils font. Ben en fait, non, parce que les commanditaires au-dessus, qui sont genre des gros mecs genre Areva, ils trouvent qu'il y a un garçon en parésie, c'est chaud. Concrètement, c'est chaud, ça passera pas. Je leur dis, je vous emmerde, parce que moi, je vais dans vos chiffres. Mais vraiment, littéralement. Ils font, non, je fais, non, attendez, on s'appelle. Et c'est là que j'ai la chance, c'est que je sais que je parle quand même. Je suis assez taré là-dessus. Donc, on s'appelle. L'appel a duré 3 heures, ils ont payé, et ils ont même pas le droit de utiliser mes planches. Je peux pas expliquer comment arrive à ce truc-là. C'est juste, si tout le monde était tout le temps vénère, la question se poserait pas. Maintenant, eux, ils vont te dire, ah ouais, mais en fait, il y a tel auteur à côté qui peut. En fait, le problème, c'est que quand tu peux pas refuser, c'est pas parce que tu peux pas refuser. Parce qu'ils vont te dire, mais il y a des mecs à côté qui vont te dire oui. C'est ça, en fait, le problème. C'est pas que toi, tu dois te sentir mal par rapport à ça. Après, je suis d'accord qu'il y a des projets qui méritent. Si on te dit juste, bah voilà, le titre est virgule en plus, ouais, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un truc de à quel point. Quelle part est sacrifiable de base, tu vois. Il y a des trucs où je m'en fous, tu vois, si on me dit, bah tiens, ouais, le truc est plutôt comme ça, je m'en fous. Mais il y a des trucs qui sont non négociables, et malheureusement, il ne faudrait pas négocier. Mais c'est chaud, il n'y a pas de solution, c'est juste, c'est chaud. C'est pas agréable, j'aime pas du tout faire ça. Bah, là, je me dis en rigolant, mais ça me met dans des états de malaise. Je perds de l'argent, je me rappelle après, je vais me justifier, je vais dire mes parents, oh, c'est chaud et tout. Ça me plaît pas, bien sûr que c'est horrible, mais je me dis, je me serais battu pour, en guillemets, toute la profession, quoi. Pour qu'ils se disent, non, des fois, il y a vraiment des gens, faut pas déconner, que la prochaine fois, ils se disent, attends, la dernière fois, on a peut-être un peu allé trop de manière vénère, et tu vois. Et du coup, je pense qu'il faut quand même le faire. Mais si tu me dis ta question, c'est est-ce que des fois il y a moyen, est-ce qu'on perd des choses ou on perd des choses?
Ouais,
Alors, on parlait de ce truc de payer parfois, payer une misère ou payer zéro. Alors, on a peut-être posé cette question. Moi, je me demande, est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir des gens qui débarquent dans tes mentions sur Twitter pour demander de faire un dessin gratuit en citant le truc « Si tu le fais, je te paie en visibilité ».
La fameuse visibilité, ben justement, tout à l'heure, on demandait c'était quoi l'équivalent « tu devrais faire la Starac » ou « tu devrais faire The Voice ». Il y a un peu ce truc-là de la visibilité. Ça peut aller plus loin, ça peut aller à des gens de « Ouais, par exemple, est-ce que tu peux nous faire 20 000 dessins et tout parce qu'on est éco-responsable, tu vois ?» Et alors, bah, si t'es un peu écolo, tu fais ça, tu vois. C'est même pas de la visibilité, quoi. C'est vraiment genre « Tu le fais ou tu vas en enfer ?» Tu vois, genre « Ouais, merci les gars !» bien sûr que ça m'arrive tout le temps. Et tu réponds toujours avec un léger plaisir de « Moi, je vois ce que font, je fais. Ok, bah, vas-y, quantifie la visibilité, machin. » Ils arrivent au fond, je fais ça, ça m'intéresse pas, tu vois. Et vraiment, je les laisse parler, faire de « Bah, tu m'envoies un gros devis chiant, vas-y, poste pour rien, tu vois, genre. » Et quand ils voient ça bien servir, ils font « En fait, tu le feras jamais, je fais, non. » Ils reviennent pas, ils reviennent pas. Donc c'est ça, il faut vraiment faut être hyper peste. C'est des gens qui veulent, en vrai, il y a plein de commentateurs qui veulent pas notre bien. Je dis pas qu'il faut être méchant, il faut juste être peste. C'est normal de se moquer, c'est normal de leur montrer qu'ils sont ridicules. Et soyez peste, justement. Très bonne morale, n'est-ce pas ?
Merci.